nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Salle de conférence, des bureaux d'études, de dessin pour les médias, fabriqués par nous, dans une entreprise à côté de l'immeuble. Où se trouvent les emplois cerveau. Il y aura aussi un service internet pour les sites. D'ailleurs, un ordinateur très perfectionné qui est relié à la médiathèque. Et s'il désire une information, il peut le faire rapidement de son bureau. Le client est reçu au service commercial, qui d'après ce que dit le client, le service commercial le présente au cerveau qui est spécialiste dans ce problème. La facturation est payée alors. Voilà. Nous avons aussi, pour les gens qui le désirent, créé des petits villas pour le personnel. Villas reliées par ordinateur au centre. Ce qui fait que les gens peuvent travailler chez eux s'ils le désirent. Comme vous voyez, c'est l'entreprise de l'avenir. Et nous recrutons le plus de personnes possible comme mademoiselle. Elle lui dit. Je ne sais pas si ça m'intéresse. Je suis assez indépendante, vous savez, pour mon travail. Il lui dit. Pour ce qui est du travail, vous faites comme vous voulez. Ce qui compte, c'est l'efficacité. Nous ne nous occupons pas de la façon dont vous travaillez. Dit. Moi, l'histoire, je ne vois pas si ça va bien vous être utile. Il lui dit. Tout peut être utile. Un homme qui a acheté une demeure veut connaître l'histoire de sa demeure, de sa famille, de l'entreprise, du pays où il va vivre, etc., etc. Alors, elle lui dit, et partir à Lyon, il lui dit, j'ai dit, je travaillais au siège, mais avec l'ordinateur, on peut travailler ailleurs qu'au siège, chez soi par exemple. À Paris et dans les environs parisiens, vous trouverez aussi des clients. Bien sûr, pour l'histoire, mais bien certain, si un jour on demande de calculer combien d'énergie il faut pour aller sur Mars, là, on prendra une autre personne, et une personne du siège. Alors, elle lui dit, je vais réfléchir, je ne sais même pas ce que je vais faire pour plus tard. Et puis j'ai ma mère et j'ai mes amis. Le jeune homme lui dit, c'est ce jeune homme? Oui, que fait-il? Gilbert lui dit, je veux être professeur de littérature. Cela nous intéresse. Oui, mais moi je veux enseigner. Vous enseignerez à des clients qui vous poseront des questions. Gilbert lui dit, je ne veux pas être dans une boîte pour qu'on m'appuie sur un bouton et que je dois répondre. Le jeune homme lui dit, ce n'est pas du tout ça. Vous êtes dans quelle université? Moi, informatique. C'est bien ça. Nous cherchons aussi des gens qui travaillent chez eux. C'est plus dur de les voir. Ça nous intéresse, Gilbert lui dit. Non, merci. Mais nous attendrons. Trouver du travail, vous savez, c'est difficile, Gilbert lui dit. Je le sais, mais j'ai ce qu'il faut, Nathalie dit. C'est un... S'il est au chômage, il peut entrer dans l'entreprise de son père. Le jeune homme dit, et c'est quoi comme entreprise? Il lui dit, mon père est franc-blanc. L'homme lui dit, je comprends, mais vous acceptez de travailler avec des maçons et refusez, c'est de travailler avec des cerveaux, des intellos comme vous. Gilbert lui dit, pas, je ne le ferai sûrement pas. Alors que ferez-vous? J'écrirai des livres. À notre époque? Oui, le papier, le support qui est le plus résistant. C'est le support qui est le mieux, le savez-vous? Le papier a des milliers d'années et peut résister longtemps. Il y a des livres qui sont encore bons et qui ont été édités il y a 500 ans et même 1000 ans. Et vous, avec vos informatiques, votre informatique numérique, ça ne dure que 15 ans. Je l'homme lui dis. Bon, eh bien, je vois qu'il n'y a rien de plus à vous dire. Voici ma carte. Il lui tend à chacun sa carte. Il leur dit, j'ai d'autres rendez-vous. Gilbert lui dit, vous avez d'autres cerveaux, mais qui vous donne des informations sur les étudiants? C'est simple, je vais voir les responsables des écoles. Et ils me disent, ils sont fiers de me dire la liste de leurs bons élèves, ils me montrent leur dossier. Voilà, ils se lèvent et les quittent. Nathalie demande à Gilbert, et les quittent. Nathalie demande à Gilbert, qu'est-ce que tu en penses? C'est une boîte à cerveau et c'est peut-être bien. Mais moi, je ne veux pas passer 6 heures par jour dans un bureau à étudier des solutions à des problèmes. Et puis, il n'a pas parlé de salaire et lui dit, les gens seront logés aussi. Comme cela, pas de frais de transport, pas de prime de transport et les fous du travail pourront travailler même le dimanche chez eux. Parce qu'ils seront reliés, connectés au siège. Et comme ils seront connectés aux clients, pour ces fous, plus pour l'argent, ils travailleront constamment chez eux. La part du gain, et plus on en a, plus on en veut. Et il faut de plus en plus travailler pour en avoir. En plus, il y a d'autres genres de personnes qui travaillent constamment. Des cerveaux, des fous, de solutions aux problèmes. Ceux, tant qu'ils n'ont pas trouvé la solution, travailleront inlassablement pour trouver la réponse. Le genre de personnes comme ce genre de personnes qui lisent de gros bouquins indigestes, c'est comme les mémés anglaises qui lisent 600 pages en une seule fois pour savoir qui a tué, pour savoir si ils avaient vu juste. Ces mémés ne tombent jamais juste parce qu'en réalité, on ne peut pas savoir qui est le coupable au début de l'histoire. Parce que même l'auteur ne le sait pas. Alors l'auteur choisit un coupable au hasard, et pourquoi pas un domestique. Pas. Avant de t'embaucher, ils doivent tout savoir, ton intelligence, mais aussi ton caractère, tu es une personne qui va jusqu'au bout de ce que tu fais. Et tu dois savoir si tu aimes trouver la solution. Tu es un joueur, pour ainsi dire, un passionné, une personne pour qui c'est la chose la plus importante, c'est la solution du problème à résoudre. Là, ils t'embaucheront, parce qu'ils savent qu'avec toi, le temps, l'argent ne compte pas, mais ce qui compte, c'est la solution, le travail que tu fais, que tu es même capable de travailler gratuitement à la solution. Elle lui dit, c'est pas mon genre. Il lui dit, moi non plus. Termine leur verre et s'en vont. Denis, 10 ans, sort du lycée Henri IV. C'est un garçon grand, mince, comme les garçons blonds, de visage ovale, mince, de beaux yeux bleus. Il est habillé d'une veste en cuir marron et d'un pantalon velours beige. Il a un cartable à la main. Il entre chez lui à midi, habite à 10 minutes plus loin dans la rue, qui descend sur les quais de Seine. Il est 16 heures. L'enfant se dépêche de rentrer parce qu'il veut aller voir à la télé Zorro. Il a tourné à droite le lycée, dépasse ses élèves qui vont prendre le car devant la rue. Une voiture noire l'a dépassé et s'est arrêté. Un homme grand, fort, cheveux gris, tête ronde, costume gris, sort de voiture et va vers lui. Denis est surpris. L'homme lui dit, c'est toi Denis? Oui monsieur, je viens de la part de ton papa. Ta maman est malade. Elle est à l'hôpital. Qu'est-ce qu'elle a? rien. Juste qu'elle est tombée et qu'elle est à l'hôpital. Le papa est aussi là-bas. Il veut que tu y ailles. Aussi. Denis lui demande, c'est où l'hôpital ? L'homme dit, j'ai une voiture, je peux t'y mener. Je suis médecin là-bas. Denis réfléchit. Qui est cet homme ? Oui, mais il y a maman qui est malade. Alors, bien, j'y vais. L'homme le mène à la voiture. Il ouvre la portière arrière, fait entrer l'enfant. Et l'homme entre à côté de lui. Et dit au chauffeur, allez-y. Demande, c'est loin l'hôpital ? L'homme ne dit rien. La voiture file, elle descend la pente, passe dans sa rue. La voiture descend jusqu'au quai de Seine. Là, elle suit la berge. Et elle file, toute droite, très vite. Denis se demande combien on fait. Il trouve rigolo toutes les voitures que l'on dépasse. Puis, la chaleur, le soleil qui lui fait clignoter les yeux, tout ça le fatigue. Et puis, c'est l'heure de son goûter. Il en a un peu assez de la voiture. Il demande, on arrive bientôt ? L'homme lui dit, oui, bientôt. C'est loin ? Non, pas trop. Si c'est loin ? L'homme lui dit, pense à ta maman. L'enfant soupire. La voiture sort de Paris. Banlieue, campagne. Là, la campagne, ça le distrait. Puis un village. Puis une petite route. Des bois. Des champs. Des bois. La voiture s'est arrêtée enfin devant un portail de fer rouillé qui est l'ouverture d'un mur. Le chauffeur descend de voiture avec son téléphone. C'est nous. Le portail s'ouvre. Le chauffeur va vers la voiture. En route. Longe un grand parc. Au fond du parc, il y a une grande demeure. L'enfant demande, c'est l'hôpital ? L'homme ne dit rien. Arrêtés devant l'entrée de la maison. L'homme fait sortir l'enfant. Viens. L'enfant sort. L'homme va sonner à la porte. La porte s'ouvre. C'est une femme, grande, mince, blonde, elle a une robe noire. Elle dit à l'homme, vous voilà enfin. Ils entrent, elle ferme la porte. Couloir tout nu, l'homme lui dit, il sortit à 16 heures, le temps que l'on vienne. L'enfant demande, Où est ma maman ? La femme lui dit, viens, allons à l'étage. Et il monte à l'étage. Au deuxième étage, ils suivent un long couloir. La femme ouvre une porte.
Entre.
Ils entrent. C'est une chambre d'enfant, propre, meublée, moderne. L'enfant dit, mais où est ma maman? La femme lui dit, tu as faim? L'enfant lui dit, où est ma mère? Assieds-toi. Elle lui montre une table en formica. Je vais te chercher un goûter. Non, où est maman? La femme se penche vers lui et lui dit, est-ce que ta maman serait contente de te voir faire un caprice? Il ne répond pas. Elle lui dit, tu vois bien, tu vas manger. Je sais ce que tu aimes comme goûter. Qui te l'a dit? Je l'ai appris. Allez, assieds-toi. Il s'assoit, bout d'or. Elle dit à l'homme, restez ici, je vais chercher le goûter. Vous voulez quelque chose?
Non, merci.
Et elle sort de la chambre. Le petit dit, c'est bizarre ici, ça me ressemble pas à l'hôpital. L'homme lui dit, pourquoi? Tu connais beaucoup d'hôpitaux? Oui, à la télé. Il lui dit, à la télé, c'est pas pareil, tu comprends? C'est du faux. Et là, c'est du vrai?
Oui.
La femme, la porte s'ouvre, la femme entre. Elle a un plateau. Elle dépose sur la table. Il y a un bol de chocolat. Du pain grillé. Et un masque. Du jus d'orange et un masque. Elle dit, tu vois, c'est tout ce que tu aimes. Il lui demande, qui t'a dit ce que j'aime? Mange, c'est bon. L'enfant qui a faim, mange, ne peut pas s'empêcher de trouver ça très bon. Elle lui demande, c'est bon? Oui. Où est ma maman? Elle lui dit, finis de manger, mon petit. N'oublie pas ton jus d'orange. L'enfant continue à goûter. Une fois qu'il est fini, il demande, je veux voir ma maman. La femme lui dit, montre-moi tes mains. Il les lui montre. Elle lui dit, il va falloir te les laver. Il lui dit, pour aller voir maman? Elle lui dit, viens. Il se lève, elle lui prend la main et sort de la chambre. Suivent un long couloir. Elle lui dit, tu vas voir tout à l'heure, il y aura pour des tas de petits garçons comme toi. Il lui demande, ils sont malades? Il lui dit, la salle d'eau est ici. Viens. Elle ouvre une porte. Ils entrent. C'est C'est une grande pièce. Les murs sont entièrement blancs, à carreaux blancs. Au milieu de la pièce, une rangée de lavabos et une autre de l'autre côté qui se touche le dos. Dans chaque lavabo, il y a un savon liquide. Au milieu des lavabos, entre les lavabos, il y a des sèche-mains contre le mur. Tout le long du mur, il y a des portes blanches. Pour les cabines douches individuelles, les cloisons ne vont pas jusqu'en haut. Elle lui dit, va te laver les mains. Il lui dit, il y a beaucoup de lavabos. Elle lui dit, prends celui que tu veux. Et il va au lavabo pour se laver les mains. Il demande, pourquoi est-ce qu'il y a tant de lavabos? Parce qu'il y a beaucoup de petits enfants comme toi. Leurs mamans sont malades. Va te sécher les mains avec le sèche-main. Elle lui montre l'appareil pour se sécher les mains. Et il se sèche les mains avec l'appareil. Ça chauffe? Oui. Elle lui dit, viens. Il la suit. Ils sortent de la pièce. Il lui demande, on va voir maman? Elle lui dit, viens. Ils suivent un long couloir. Elle ouvre une porte. Entre. Il entre. C'est une grande pièce avec une table, bureau, une chaise et un homme est assis à une table. Il est de taille moyenne, cheveux noirs, petite moustache, tête ronde, lunettes métal, habillé d'un costume noir. Il y a aussi un tableau noir à côté du bureau. Elle lui dit, je vous l'amène, c'est nouveau, très intelligent. On en ferait un chercheur, le me dit.
On verra bien.
Denis demande, qui est celui-là? Elle lui dit, c'est monsieur le professeur Lepic. Il va te faire des tests pour voir le niveau intellectuel, pour savoir où tu en es. Pourquoi? Je veux voir ma maman. Elle lui dit, je vous laisse. Et elle les quitte. Monsieur Lepic lui dit, assieds-toi. Où est ma maman? Assieds-toi. Je vais te passer des tests. Non, je ne suis pas malade. Monsieur Lepic lui dit, je le sais bien, mon petit. Autrement, tu ne serais pas là. Allons, assieds-toi. Je vais te montrer comment. Tu seras bien content. Je vais te montrer des tas de choses. Je vais savoir si tu es plus fort que les autres. Et si tu es aussi adroit, tu auras une surprise. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, l'élu, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu, Lionel Morzetti.